connaissances et témoignages. Présenté par Anne Bernet, l'abbé Guérin.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Don Martin Panard, un des chapelains du sanctuaire de Montlijon, qui nous fait l'honneur et le plaisir de participer à cette émission autour de la Vierge Marie de Pomain, de l'abbé Guérin et de la dévotion mariale en France. Bonjour mon père.
Bonjour madame, bonjour à tous.
Vous êtes l'un des chapelains du sanctuaire de Montlijon, où l'on prie plus particulièrement pour la délivrance des âmes du purgatoire. C'est une notion, il faut bien le dire, qui s'est un peu perdue de nos jours, où l'on a tendance à croire que nous irons tous directement au paradis. Pourriez-vous rappeler brièvement à nos auditeurs ce qu'il en est du purgatoire et ce que sont les fins dernières ?
Les fins dernières, c'est surtout dire que nous avons une finalité. Voilà, quand on a cette expression des fins dernières, qui paraît un peu abrupte parce qu'elle donne un petit peu l'image dans le langage français que c'est une fin au sens d'un arrêt, d'une terminaison. En fin de compte, les fins dernières nous ouvrent à une perspective qui est infinie justement et qui est l'aboutissement de notre finalité, ce pourquoi nous sommes faits. Voilà, Dieu nous a fait créer par amour pour vivre avec lui dans l'éternité. Notre finalité à tous, eh bien, c'est de répondre à cette vocation d'amour et de communion avec Dieu. Mais cette communion ne nous est pas imposée. Elle procède d'un choix libre, d'une réponse libre de l'homme qui peut dire oui ou non à cette invitation, à cet appel. Et donc les fins dernières, c'est le domaine de la théologie qui s'occupe essentiellement, on appelle ça aussi l'eschatologie, l'étude des fins dernières dans la théologie. Et donc c'est l'étude, le discours sur tout ce qui concerne la mort, la vie après la mort pour nous tous. Donc ça balaye des sujets nombreux et vastes, la mort elle-même et puis le fameux jugement, le jugement particulier d'abord, le jugement dernier ensuite, l'aspect aussi de la résurrection de la chair, puisque nous espérons tous et nous croyons, nous chrétiens aussi, vivre cette vie auprès du Seigneur dans la communion avec Dieu dans la chair, pas seulement dans l'âme, dans notre âme. Il y a aussi la notion de la communion des saints, il y a aussi bien sûr la notion donc de l'Église, de la prière les uns pour les autres. Donc tout ça fait partie du sujet des fins dernières, le fait qui est important parce que ça nous rappelle à la fois que notre vie a un sens infini, que notre vie a un poids aussi, notre vie sur la terre aussi engage en quelque sorte notre vie éternelle. Ça nous rappelle aussi notre liberté, notre responsabilité sur notre propre vie. Voilà, le Seigneur, en tout cas, nous souhaite auprès de lui et met tous les moyens en œuvre pour que nous puissions répondre à son appel. La notion de purgatoire, justement, dont on parlera sans doute, eh bien, est une invention, je dirais, de la miséricorde de Dieu pour que, même après la mort, les conditions soient réunies pour que nous puissions correspondre à ce pourquoi nous sommes faits. Hein, Saint Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens que Dieu nous a choisis même avant la création du monde, il dit pour être saint et immaculé en sa présence dans l'Église. C'est Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Pour être saint et immaculé en sa présence dans l'amour. Donc ce qui invite à penser que cette présence en Dieu pour l'éternité eh bien, suppose de notre part aussi une adaptation, une purification, être immaculé. Et voilà, c'est la raison d'être aussi du purgatoire.
Quelquefois, nos auditeurs, peut-être comme beaucoup de chrétiens et plus encore de non-croyants, ont tendance à regarder le purgatoire comme une sorte de lieu épouvantable. En fait, comme vous venez de le rappeler à l'instant, mon père, c'est la bienveillance et la charité divine qui permettent à l'homme d'avoir cette chance de rattrapage.
Exactement. Nous avons, je pense, une purification de nos propres mentalités à opérer, en particulier auprès des chrétiens, parce qu'on a été largement abreuvés par l'imagerie populaire et même les vitraux dans les églises, toutes sortes de peintures qui décrivent le purgatoire effectivement comme un lieu de châtiment, de punition, etc., avec force représentation un petit peu glauque. Et nous avons aujourd'hui les moyens de redécouvrir de manière un peu neuve et un petit peu plus correspondante justement à la miséricorde de Dieu, ce purgatoire. Benoît XVI en parle dans son encyclique sur l'espérance Spe Salvi, en disant que le feu du purgatoire, c'est Jésus lui-même. Enfin, il dit que, en tout cas, un certain nombre de théologiens sont de cet avis-là. Donc il y a matière à revisiter vraiment le purgatoire comme un lieu de... On dit un lieu d'ailleurs, mais ce n'est pas un lieu. Jean-Paul II a rappelé dans une de ses catéchèses que ce n'est pas un lieu matériel, mais on emploie ce mot-là par facilité. En tout cas, c'est un état, on devrait-on dire davantage, un état où s'exprime à fond la miséricorde de Dieu qui guérit. Le curé d'Ars disait d'ailleurs, le purgatoire, c'est l'infirmerie du bon Dieu. Et donc on a tout lieu d'associer finalement le purgatoire à une œuvre de guérison, évidemment. Et quand on voit la façon dont Jésus se comporte avec les malades, eh bien on a davantage, on a une meilleure idée, je pense, de ce qu'est le purgatoire.
Ce qui est une vision infiniment plus consolante que celle que beaucoup de croyants en ont avec des flammes, des supplices, la peine du damné et le reste.
Oui, alors tout ça sont des choses justes parce que le feu du purgatoire, c'est une notion biblique. On la retrouve notamment dans l'épître de Saint Paul, première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 3, versets 11 et suivants, où il est question d'un feu qui purifie, qui vérifie l'état de notre vie. Encore faut-il associer ce feu à ce qui est juste, à savoir à l'Esprit Saint, au feu de l'amour, au feu de la Pentecôte. Alors certes, c'est un feu qui purifie. Et donc il y a une souffrance, la peine du damné, effectivement, c'est un terme théologique qui exprime mais une souffrance qui existe au purgatoire, une souffrance d'être séparé de Dieu alors qu'on a tellement envie d'être réuni à lui. Et encore une fois, Benoît XVI, dans Spécial Vie, en parle en disant, voilà, il y a une souffrance, mais c'est une heureuse souffrance, un peu à la manière comme un chirurgien va opérer pour guérir, et bien peut-être que cette souffrance peut être un peu comparée à celle-là. Pour être guéri, il faut que Dieu intervienne et intervienne même là où ça fait mal un petit peu, quoi. Voilà, mais c'est une œuvre de miséricorde, c'est pas pour punir, c'est pour guérir.
À Montlignon, mon père, tout a commencé en 1878 avec l'arrivée au village de l'abbé Paul Buguet. Pourriez-vous nous présenter ce prêtre?
L'abbé Buguet, effectivement, est un prêtre du diocèse de Sées, dans l'Orne, et il est né dans cette partie du diocèse de Sées qu'on appelle le Perche, un petit village de Bellavilliers. Et puis il devient prêtre, effectivement, c'est une famille modeste, pas pauvre spécialement, mais simple. Il devient prêtre et puis il est d'abord envoyé comme vicaire dans l'ouest du département qu'on appelle le Bocage, où il se fait un petit peu remarquer par son zèle pour défendre à cette époque-là l'école catholique aussi, et puis la défendre aussi l'Église contre le protestantisme. Il le fait de manière assez virulente et finalement on l'envoie un petit peu se rafraîchir les idées. Dans le Perche, d'où il est originaire, en fait, le Perche, c'est une région moins christianisée dans le diocèse que ne l'est le Bocage. Donc, c'est pas forcément une promotion d'être nommé curé à La Chapelle-Montlignon, un village de 600 habitants, dont il devient curé en 1878, effectivement. Il a 35 ans à cette époque-là. Et à Montlignon, eh bien, il devient un curé attentif à ses paroissiens. Et puis, zélé comme il est, eh bien, il continue, en fait, à avoir des projets. Et dans ces projets, il y en a essentiellement deux. L'un, de trouver un moyen de trouver du travail pour les paroissiens. C'est la période de l'exode rural, de la nouvelle industrialisation. Et donc, beaucoup de jeunes gens quittent le village pour aller dans les villes ou dans les banlieues des villes chercher du travail, ce qui nuit aux familles sur place et aussi aux travailleurs qui sont dans des moins bonnes conditions dans les villes. Et puis, il a ce souci aussi de prier pour les défunts. En tout cas, il s'investit à fond dans cette pastorale locale avec un double projet social et spirituel.
En quoi il est une très belle figure de prêtre de cette fin du XIXe siècle qui ressemble par bien des côtés à notre abbé Guérin. Pourriez-vous nous dire, mon père, en quoi justement ces prêtres peuvent inspirer un jeune prêtre d'aujourd'hui?
L'abbé Buguet, en tout cas, fait partie des prêtres de cette époque-là, qui ne sont pas rares du tout, à s'investir beaucoup dans le social. Il est très présent à cette époque-là. Quand l'abbé Buguet arrive à Montlignon, il est quelques années à peine avant l'apparition de la première encyclique dite de doctrine sociale de l'Église, de Léon XIII, Rerum Novarum. Et donc, il y a un mouvement général dans l'Église, pas seulement au niveau du pape, mais aussi même dans les villages de Normandie, où il est question de s'occuper du travail de ses paroissiens, etc. Donc ça, de l'abbé Buguet est bien de son époque. Ce qui est, à mon avis, récupérable, je dirais, pour les prêtres de notre génération, c'est un souci, en tout cas chez l'abbé Buguet, un souci marqué aussi bien pour le social que pour le spirituel. Peut-être qu'aujourd'hui, chez les chrétiens, il y a un petit peu une fracture, peut-être que les mots est un petit peu fort. En tout cas, il y a des chrétiens qui vont facilement rendre service dans le social, au Secours catholique ou voilà, plein d'autres œuvres de ce type-là. C'est vraiment pour eux la manière d'être chrétien, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui font des pèlerinages, qui sont dévots à la Vierge Marie, qui sont plus dans la piété. Et peut-être que ce prêtre-là, l'abbé Buguet, eh bien, a su réunir dans un même projet, parce que le sanctuaire de Montlignon réunit finalement un projet social et un projet spirituel, rappeler que bien que l'homme s'engage dans le social en vue de la vie éternelle, et que la vie éternelle éclaire la façon dont on va s'engager dans le social, et donc finalement que la terre et le ciel se rejoignent, se répondent, s'interpellent l'un l'autre pour se correspondre en quelque sorte. Et je pense qu'il y a matière aujourd'hui à redonner un peu du souffle à l'engagement social en lui donnant la perspective de la vie éternelle, et donner aussi à ceux qui sont très sensibles à cette question de la vie éternelle aussi le sens de l'incarnation, que cette vie éternelle a déjà commencé, qu'elle s'inscrit dans notre vie actuelle, quoi.
Autrement dit, c'est réparer cette fracture dont vous parliez à l'instant, qui divise parfois les fidèles, et leur rendre cette harmonie de l'âme, leur faire comprendre que le monde et l'humanité et l'éternité commencent ici-bas, mais qu'il faut se soucier de ses frères, mais il faut aussi se soucier de Dieu.
Voilà, tout ça va ensemble. Et on a un slogan au sanctuaire de Montlégion qu'on aime bien répéter, qui est « La vie éternelle est déjà commencée ». Ça donne du sens à notre implication dans les œuvres sur la terre. Ça rappelle aussi que cette vie éternelle, elle n'est pas seulement après la mort, mais qu'elle doit se vivre déjà, ce royaume des cieux qui est déjà présent, se vivre sur la terre, à commencer par la vie en famille, la vie au travail, la vie économique, la vie, tout ce qu'il y a de plus humain, en quelque sorte.
Alors l'abbé Buguet a connu plusieurs drames familiaux qui l'ont particulièrement marqué. Il est très préoccupé du sort des âmes du purgatoire. Comment va-t-il remettre à l'honneur cette prière pour les défunts qui déjà en cette fin du XIXe siècle avait un peu perdu de l'importance qu'elle pouvait avoir jadis?
Oui, alors je ne sais pas très bien dans quelle mesure elle avait perdu de l'importance. Ce qui est sûr, c'est que lui, il est sensible à cette prière pour les défunts pour donc plusieurs raisons, notamment les drames familiaux. Il a perdu son frère accidentellement ainsi que ses deux nièces, donc il est touché dans sa famille par ce deuil. Quand il fonde son œuvre pour les âmes du purgatoire, en fin de compte, il y en avait déjà une dans le diocèse de C. Donc il y avait quand même cette prière qui existait, une confrérie qui existait dans le diocèse de C. Mais pour en faire une, comme il ne devait y en avoir qu'une par diocèse, il a fallu qu'il se distingue. Et c'est pour ça qu'il a fondé, lui, une association de prière pour les âmes délaissées du purgatoire. Le mot délaissé pour se distinguer et avoir l'autorisation d'en fonder une deuxième. Donc il n'y avait pas d'absence, je dirais, entièrement de cette prière pour les défunts. Peut-être qu'elle s'était en tout cas un petit peu atténuée, mais pas d'absence complète en tout cas. Et voilà, toujours est-il qu'avec son deuil familial, mais aussi, je pense, sa piété d'enfant, je pense qu'à cette époque-là, elle a dû apprendre très tôt à prier pour les défunts, à s'intégrer à la prière familiale. Je pense que comme prêtre, comme curé aussi, il avait à cœur d'accompagner ses paroissiens en deuil, d'enterrer ses paroissiens aussi en les accompagnant par la prière au-delà des obsèques. Et en tout cas, ce qui me fait dire que cette prière pour les défunts n'était pas tout à fait dans l'oubli encore à cette époque-là, c'est que il a fondé son œuvre à partir de rien. Il a fondé un sanctuaire assez gigantesque à partir de rien, si ce n'est à partir des dons des fidèles. Et de fait, la question des âmes du purgatoire a trouvé un écho très immédiat, très rapide et très très conséquent. Il s'est donné de la peine pour faire de la publicité pour tout ça. N'empêche qu'il a réussi à construire un sanctuaire, une basilique, en 15 ans, quoi. Ce qui veut dire qu'il y avait quand même un répondant à son époque. Beaucoup de gens étaient très heureux de pouvoir s'associer à cette prière donnée pour qu'il y ait une basilique dédiée à cet effet. Voilà, ce qu'on aurait peut-être plus de mal à faire aujourd'hui, en tout cas.
Et puis les dons sont même venus du monde entier, si je ne m'abuse,
voilà.
Jusque d'Amérique. C'était
voilà,
un succès foudroyant.
Parce que ce petit curé, de fait, a parcouru village de France, mais aussi pays européens et même outre-Atlantique, pour aller trouver des associés qui étaient, etc. Donc c'était... Il a vraiment mouillé sa chemise, comme on dit, on l'appelait le commis voyageur des âmes du purgatoire. Donc c'est lié beaucoup à son zèle, à son énergie, à sa persévérance. Et puis aussi, les dons ont afflué, mais des dons petits, des dons gros. Il voulait que ce soit aussi l'œuvre pour les pauvres. La cotisation était d'un sou à l'époque, donc c'est dire aussi la quantité de cotisations qui sont venues à cette époque-là. Oui.
Lui, ça avait beaucoup fait sourire son évêque, Mgr Trégaro, qui lui avait dit « Mon bon monsieur curé, que voulez-vous faire avec un sou ?»
Voilà, c'était un petit peu un challenge. Comme on dirait aujourd'hui.
Alors, l'abbé Buguet, depuis qu'il avait été ordonné, avait pris l'habitude, je crois, de dire chaque semaine une messe pour l'âme la plus délaissée du purgatoire. Et il disait qu'il s'en était toujours trouvé bien, que ça l'avait beaucoup aidé dans son sacerdoce et dans ses œuvres sociales. Or, un jour de mai 1884, un événement curieux est survenu alors qu'il célébrait cette messe, qui l'a conforté dans la certitude que son initiative était bien reçue du ciel. Une dame mystérieuse a assisté à cette messe. On a dit parfois que c'était l'âme la plus délaissée du purgatoire venue le remercier, parfois aussi que c'était la Sainte Vierge elle-même. Pouvez-vous évoquer cette histoire?
Volontiers, cette histoire est très simple et à la fois elle est tellement simple que du coup on peut en faire un peu ce qu'on veut. De fait, l'abbé Buguet avait à cœur de célébrer chaque lundi une messe pour l'âme délaissée du purgatoire et c'était une affaire un petit peu secrète entre lui et le Seigneur, personne ne le savait trop. Et donc c'était ça avant encore de fonder son archiconfrérie, comme quoi ça vient de loin. Et effectivement un jour une dame qu'il ne connaît pas, qui n'est pas du village, vient le remercier de cette charité qu'il a de célébrer la messe pour les âmes délaissées du purgatoire. Et cette dame le remercie, assiste à la messe et puis repart et puis il se trouve que personne n'a su qui c'était ni où elle était partie, on ne sait pas, c'est assez mystérieux. Voilà, ce qui est intéressant c'est que l'abbé Buguet c'est lui qui raconte en fait cette histoire-là. De fait, lui, il attendait un signe. Il attendait quelque chose qui le conforte dans cette perspective de fonder une association, une œuvre complète. Et de fait, cet événement lui a servi de signe, bien que lui-même ne sache pas tout à fait quoi en tirer. On a encore son écrit de lui, et lui-même ne tire aucune interprétation de ça. Il ne dit pas c'est peut-être la Sainte Vierge, il ne dit pas c'est peut-être une âme du purgatoire, il dit rien. Il dit voilà, elle m'a remercié, on ne sait pas qui c'était, elle est partie mystérieusement, et il en reste là. Alors après, tout est permis. Est-ce que c'était une apparition d'une âme ou de la Vierge Marie ou je ne sais pas, ou simplement quelqu'un qui était très discret voilà. On n'a aucune idée en fait. Et l'abbé Buguet lui-même n'en fait pas tellement d'étalage. Il le raconte, il le décrit un peu comme je vous le dis là. Mais ce qui est certain, c'est que ça lui a servi de signe d'encouragement. Voilà, ça, il le dit tel quel. Après, il n'y a pas tellement de choses très appuyées, très concrètes pour comprendre un peu qui était cette dame-là. Elle a laissé vraiment un petit mystère, et puis c'est bien comme ça, quoi.
Alors en 1894, avec les sous accumulés, l'abbé Buguet peut poser la première pierre de sa basilique, qui est placée sous le vocable de Notre-Dame libératrice des âmes du purgatoire. Pourriez-vous nous dire justement quel est le rôle de la Sainte Vierge auprès des défunts?
Ah bien, il est assez mystérieux et assez grand en même temps, je pense. La Vierge Marie, on la prie tous les jours pour qu'elle soit là à l'heure de notre mort. Donc d'une part, elle est présente, vraiment, on compte sur elle, sur sa présence à l'heure de la mort. Et puis, on sait bien que sa maternité aussi ne s'arrête pas à notre vie terrestre, mais que sa maternité, finalement, c'est un enfantement pour le ciel. En plus, la Vierge Marie est celle qui nous enfante, elle est la mère qui nous enfante pour renaître de nouveau, pour renaître de l'eau et de l'esprit. Il faut en quelque sorte passer par le sein de la Vierge Marie pour renaître, comme dit Jésus à Nicodème au chapitre 3 de Saint Jean, il faut renaître d'en haut. Et jusqu'à preuve du contraire, pour renaître, il faut une mère. Donc on peut imaginer que la Vierge Marie tient lieu de mère aussi pour aller jusqu'au bout de cette naissance, un aboutissement qui nous emmène jusqu'au ciel. Marie aussi est celle qui enfante le corps du Christ, donc à la fois le corps historique du Christ et bien sûr aussi le corps mystique, ce qu'on appelle aussi l'Église, la communion des saints. Donc Marie nous enfante aussi en tant que communauté, en tant qu'Église, en tant que corps du Christ, pour nous attacher vraiment à son Fils. Donc je pense que Marie a un rôle qui est un rôle spirituel, qui n'est pas un rôle seulement pour la terre. Et Marie donc a un rôle maternel qui va jusqu'à cet aboutissement de cette vie au ciel. Dans la communion des saints, elle a vraiment un rôle particulier. Certains théologiens disent que Jésus étant la tête du corps du Christ, la tête du corps de l'Église, quelle Église, que Marie serait le cou par lequel tout passe de la tête au corps, aussi bien de la tête vers le corps que du corps vers la tête pour la prière, l'intercession. Voilà, donc Marie a vraiment un rôle qui va
Oui.
loin, je pense.
Elle est celle qui intercède pour délivrer les âmes du purgatoire, ce que symbolise la très belle statue de Notre-Dame de Montlignon, que beaucoup doivent connaître parmi nos auditeurs.
La statue du Mont-Lignon, effectivement, représente la Vierge Marie qui a le regard tourné et la main tournée aussi vers l'âme du purgatoire, qui signifie ce souci qu'elle a qui n'abandonne pas ses enfants au purgatoire, mais au contraire, qui a ce souci de les emmener jusqu'au bout, de leur permettre de connaître son fils, de se rapprocher de lui. De fait, cette statue est très symbolique, très éloquente.
L'abbé Buguet va mourir à Rome en 1918, à la tâche, avais-je envie de dire. Que va devenir son œuvre après?
Eh bien, son œuvre se poursuit. Il y a des recteurs, donc, qui sont des prêtres diocésains, d'abord, qui se succèdent pour suivre l'œuvre. Donc, l'œuvre, elle se déploie sur différents domaines. Il y a l'aspect local. Le sanctuaire, devient davantage un lieu de pèlerinage. Pendant un siècle, recteur après recteur devient aussi davantage ouvert à des retraites, des sessions, etc. Ce qui fait aujourd'hui un lieu important d'accueil spirituel. Ce qui n'était pas tout à fait le cas à l'époque du père Buguet. Donc, il y a cet aspect d'hôtellerie qui se développe beaucoup. Et puis il y a aussi l'œuvre mondiale. Le père Buguet donc a parcouru une bonne partie du monde pour faire connaître son œuvre. Et puis à partir de là, s'est développée une grande fraternité de prières, constituée surtout de groupes de prières de Montlignon qui se développent beaucoup en France et aussi à l'étranger. Et ça, c'est pas tant le fait du père Buguet lui-même que certains de ses successeurs qui sont allés ensuite bien fonder ces fraternités, notamment en Afrique et puis aussi maintenant beaucoup en France. Il y en a aujourd'hui à Taïwan, en Corée, au Guatemala, au Canada. Donc ça, pendant le siècle qui a suivi l'abbé Buguet, cette œuvre aussi s'est répandue, s'est constituée, s'est construite à travers le monde. Voilà, et puis si on regarde de l'œuvre plus spirituelle, il y a aussi cette famille spirituelle qu'on appelle la fraternité de Montlignon, qui est en fait l'ensemble de toutes les personnes qui sont recommandées à la prière de Montlignon depuis 100 ans. Ce qu'on appelle aussi la messe perpétuelle. Tous les jours à Montlignon, il y a une messe qui est célébrée pour toutes les personnes associées ou recommandées à l'œuvre de Montlignon. Et donc, il y avait déjà des millions de personnes associées au temps de l'abbé Buguet, mais ces millions de personnes s'en sont vues ajouter d'autres. Et donc depuis l'abbé Buguet, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de milliers de personnes qui se sont ajoutées dans ces registres et pour lesquelles nous prions aussi tous les jours en célébrant la messe pour eux. Donc voilà, on peut dire aussi que cette œuvre se poursuit en ajoutant, en inscrivant, en recommandant, en associant chaque jour de nouveaux associés, de nouveaux membres de cette fraternité de prière qui sont réunis par la messe qui est célébrée donc quotidiennement et perpétuellement au sanctuaire.
À quelles aspirations, selon vous, ces associations répondent-elles aujourd'hui? Pourquoi les gens s'inscrivent-ils? Qu'espèrent-ils? Qu'attendent-ils de cette inscription?
Il y a des personnes, disons, qui sont très au courant de la spiritualité de Montlignon, de ce qu'est la messe perpétuelle, et qui s'y associent eux-mêmes en se disant j'appartiens ainsi à une association, à une confrérie, je vais m'y associer en priant pour les défunts de mon côté tous les jours, en offrant ma vie aussi pour la délivrance des âmes du purgatoire, etc. Donc voilà, il y a une manière très engagée peut-être d'y répondre parfois, c'est ce qu'on appelle ceux qui adhèrent en fait à l'association. Et puis il y a ceux qui ne font que se recommander. C'est-à-dire qu'ils disent, bah voilà, j'aimerais bien compris pour moi tous les jours, je m'inscris et voilà, ça m'engage à rien moi, mais je me recommande à cette prière de l'Église. Et puis il y a ceux qui sont recommandés par quelqu'un d'autre, sans le savoir forcément. Donc les défunts, bien sûr, même des vivants. Donc là, il y a tout type, je dirais, d'adhésion à cette fraternité et toute forme de raison, des raisons d'engagement spirituel ou des raisons de confiance dans la prière de l'Église. Voilà, je pense que le panel est très varié des motifs qui font cette démarche.
Il y a sans doute aussi des familles touchées par un deuil qui viennent se recommander à Montlignon en
Alors bien
pensant
sûr, oui, voilà.
trouver la consolation, le secours pour eux et pour la personne défunte.
Bien sûr, la recommandation de défunt, bien sûr, ça on comprend très bien la raison. Et puis j'encourage beaucoup les gens qui inscrivent des défunts à s'inscrire eux-mêmes de manière à être rassemblés avec leurs défunts tous les jours par cette messe quotidienne. C'est une manière aussi d'expérimenter, de concrétiser cette communion des saints qui réunit vivants et défunts, et notamment grâce à l'Eucharistie.
Et comme vous le disiez, c'est la concrétisation, la très belle concrétisation de la communion des saints.
Voilà, oui.
Diriez-vous, mon père, que Montlignon est un pèlerinage marial?
Bien sûr, c'est un pèlerinage marial parce que c'est un sanctuaire consacré à la Vierge Marie. Ça, c'était très important pour l'abbé Buguet. Et c'est évident que les gens qui viennent prier à Montlignon font un pèlerinage auprès de la Vierge Marie pour qu'elle intercède pour les défunts. C'est très fort, notamment dans le mois de novembre où les pèlerins affluent pour les pèlerinages pour les défunts. Et clairement, c'est un pèlerinage marial avec une messe à la Vierge Marie, une messe à Notre-Dame Libératrice. Donc oui, la dévotion mariale est très forte. Je pense pour ceux qui prient pour les défunts en général, et en particulier au sanctuaire de Montlignon, c'est vraiment la porte d'entrée, quoi. C'est vraiment l'ambiance qui est donnée, quoi, c'est sûr.
Et selon vous, quelle est l'importance de la dévotion à Notre-Dame dans l'Église aujourd'hui? Pourquoi faut-il l'encourager? En quoi compte-t-elle?
La Vierge Marie nous conduit à Jésus. Quand on prie le chapelet, on médite les mystères du Christ. Et même le mystère de la Vierge Marie est un mystère qui nous appelle à contempler le Christ. L'Immaculée Conception, la grâce de l'Immaculée Conception, c'est une grâce qui est liée finalement à la rédemption obtenue par le Christ. Bref, tout vient du Christ et s'arrêter à la Vierge Marie, de fait, peut être parfois un risque. Donc voilà, c'est parfois la limite ou la mise en garde plutôt que certains pasteurs font aux fidèles pour dire attention, la Vierge Marie a toute son importance, toute sa place. C'est très important de passer par elle, de recevoir sa, enfin, de se mettre sous sa maternité, d'entendre en quelque sorte ce que Jésus dit à Jean, voici ta mère, et le disciple l'a pris chez lui. Voilà, il y a toute la dévotion mariale chrétienne, catholique n'est plus à prouver ou à inventer, elle fait partie vraiment de la vie chrétienne. Ça, c'est indéniable. Encore faut-il qu'elle soit effectivement orientée, vécue. Voilà ce que j'aime beaucoup pour revenir à Montlignon, à la statue de Montlignon, c'est que la Vierge Marie, bien, elle tient son fils dans ses bras. Et finalement, c'est son fils qui accueille l'âme qui monte au ciel, du purgatoire au ciel. Donc le fils est présent. C'est vrai que la Vierge Marie, dans la statue, prend beaucoup de place, elle est très grande. Et c'est l'enfant Jésus qui accueille au paradis, pardon. On aurait pu imaginer que ce soit plutôt le Christ ressuscité, le Christ adulte, qui accueille l'âme qui monte au ciel. Et en fait, c'est le Christ enfant. Donc, il y a toute une symbolique intéressante, certainement, sur l'enfance spirituelle, sur la naissance, justement. Et c'est vrai qu'à Montlignon, la Vierge Marie prend une place importante, mais bon, c'est un sanctuaire marial. On a beaucoup, quand même, de saints, je pense Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, à Saint-Alphonse de Liguori, à Saint Jean-Paul II, au Père Maximilien Kolb. Enfin, il y a tellement de saints qui nous ont donné une saine piété mariale qu'on a toutes les raisons d'y aller sans se gêner, quoi.
Moi, je crois que nous pouvons conclure justement, mon père, avec le mot de Saint-Louis-Marie. à Jésus par Marie.
Voilà, bien sûr, oui, voilà. Donc voilà, c'est pas nouveau d'aller à Jésus par Marie. Il faut toujours rappeler qu'on va à Jésus. Mais je pense que la Vierge Marie s'emploie justement à ce qu'on s'arrête pas à elle. Elle n'a qu'un désir, je dirais, c'est de nous conduire à Jésus précisément. Donc je pense que la prier, c'est aussi se confier à elle pour qu'elle nous conduise à Jésus, bien sûr.
Merci beaucoup, mon père.
Je vous en prie.
Cette brillante intervention. Nous étions avec Don Martin Panard, prêtre chapelain de Notre-Dame, la chapelle Montjean. Merci encore. À très bientôt. Au revoir.
À très bientôt.